Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la troisième séance de notre séminaire consacré aux articulations du réel les professeurs Jean Slamovitch et Xavier Laurent Salvador, qui vont tous deux aborder à partir de la perspective de linguiste qui est la leur, la question du réel à la pensée en passant par la langue. Professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste de morphosyntaxe de l'anglais oral, de traduction et d'analyse du discours, le professeur Slamovitch, qui est également traducteur, membre du Centre Interlangue Texte-Image-Langage, a de très nombreuses publications, dont je signalerai simplement pour les plus récentes, 2017, Référenciation, Énonciation, Rhétorique, Perspectives idéologiques de la dénomination en anglais et en français, 2019, Construction discursive et consensus énonciatif, You know et I mean, ligateur et ponctuant, presse de la Sorbonne Nouvelle. En 2019, Lexique, valeur référentielle et domaine notionnel pour une sémantique traductive, la formation grammaticale du traducteur. En 2018, avec Éléonore Obis, analyse stylistique, sémantique et culturelle de la terminologie dans les notes de dégustation œnologique en anglais, paru dans l'ouvrage Du sens à l'expérience, gastronomie et œnologie au prisme de leur terminologie. On lui doit aussi la traduction et l'édition critique avec Hugo Jacomet de The Parisian Gentleman en 2014 et en 2017 The Italian Gentleman, Thames et Hudson. Enfin, il vient tout récemment, 2021, de publier aux Presses universitaires du Midi un livre passionnant, Jazz Talk, consacré à l'approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz. Xavier Laurent Salvador est agrégé, maître de conférences HDR à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, où il enseigne l'histoire de la langue. Il est spécialiste de la traduction médiévale française du texte biblique de la Bible historiale de Guyard des Moulins. Il est le maître d'œuvre notamment d'un important projet, base de données de la Bible dans l'Europe médiévale, dont l'objectif est de constituer, avec une équipe européenne d'universitaires, une base de données de lieux du patrimoine et de textes sources ou de textes cibles en Europe, de la Bible historiale. Parmi ces multiples publications savantes, je signale parmi les plus récentes la direction du numéro 98 de la revue Caderni 2018-2019 Humanité numérique vers l'institutionnalisation et la codirection aussi avec Jeannette Patterson de l'ouvrage Paroles et images sur le commencement, le discours des peintures de la chapelle de Merléac, Paradigme Orléans en 2020. Il est évidemment de multiples manières d'aborder la question des rapports entre la pensée, le langage et le réel. C'est du reste ce que je m'emploie un peu à faire cette année dans mon cours consacré aux relations entre la sémiotique et l'ontologie. On peut procéder en s'inscrivant dans une perspective sémiotique, sémiologique, structuraliste, phénoménologique ou en choisissant de s'ancrer dans telle ou telle approche que l'on privilégie en philosophie du langage. Et au sein de ce domaine, déjà, Dieu sait si l'on n'a que l'embarras du choix. On peut le faire aussi à partir de telle ou telle conception de la linguistique elle-même, que l'on entende celle-ci au sens plus philologique du terme, au sens de la neurolinguistique, de la sémantique générative, en mettant l'accent sur les modèles théoriques du langage et sur l'analyse comparative des structures linguistiques, comme le fait ici même le professeur Luigi Rizzi, ou encore au sens de la sémantique et de la syntaxe du langage naturel dans ses liens avec l'ontologie formelle ou en relation avec de nouveaux domaines ou objets empiriques. Je pense aux travaux récents et remarquables chez nous de Friedrich Moltmann ou de Philipp Schlenker. Mais on peut aussi aborder ces questions en s'appuyant sur des analyses à la fois empiriques et savantes et en partant de ce qu'il est d'usage d'appeler le domaine de l'analyse du discours et de la langue. C'est un domaine qui a une solide et riche tradition en France et que je connais pour ma part, comme je crois nombre de philosophes parmi nous, moins bien. Ce pourquoi j'ai souhaité en savoir un peu plus aujourd'hui. Et si j'ai invité dans une commune session nos deux brillants collègues, c'est parce qu'ils ont coécrit un ouvrage à la fois érudit et fort stimulant, Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, aux éditions Intervalles en 2018. L'ouvrage étant principalement de la plume du professeur Slamovitch, mais suivi d'un long appendice du professeur Salvador, plus précisément consacré à l'archéologie et à l'étymologie du genre. Les philosophes, a fortiori lorsqu'ils se piquent de métaphysique et d'ontologie, et qu'ils ont pour tout arranger ce détestable tour d'esprit logique qui les prédispose à jeter un œil un peu condescendant parfois sur les grammairiens en les accusant, comme chacun sait, de psychologisme, ont tout intérêt, je crois, à s'informer sur ce qui se passe en des territoires qui leur sont moins familiers. C'est pourquoi j'attends, comme vous tous, je le sais, avec impatience, les exposés qui vont suivre, et je donne sans plus attendre la parole à notre premier orateur, le professeur Slamovitch. Le professeur Salvador présentera ensuite ses propres analyses, après quoi, comme d'habitude, nous pourrons lancer la discussion. Monsieur le professeur, c'est à vous.
Merci beaucoup déjà de nous accueillir en ce lieu virtuel et surtout pour nous proposer une telle comment dire, une telle thématique qui finalement mérite que philosophes, linguistes mettent en commun des points de vue fatalement différents et des attendus théoriques, des traditions aussi, des références différentes. Parce que, et ça sera mon plaidoyer peut-être, pas seulement pro domo, mais je pense qu'il y a la nécessité peut-être d'un nouveau linguistic turn pour aborder la philosophie et les sciences humaines en général. Comme on peut le constater, chaque jour, sur chaque thématique sociale, les formules tiennent le haut du pavé dans le champ politico-médiatique et leur efficacité rhétorique nous interroge quand même en tant que linguistes. Hein, on n'en finit pas d'ailleurs d'être troublé par l'efficacité de ces formules qui pourtant ne disent rien ou sont trompeuses et on peine à en élucider cette formidable efficience. La puissance connotative du lexique, mais aussi de certains arguments, nous interroge pour comprendre quels sont leurs effets de décret. Et évidemment, on constate que très souvent, le débat dans ce cadre-là devient une simple exhibition sloganique qui refuse en fait l'idée même de construire des problèmes. Hein, c'est ça qui est peut-être le plus frappant, c'est que on a toujours des solutions et jamais de problèmes à poser dans le débat public. Alors, j'aborderai aujourd'hui une proclamation justement courante au point d'être devenue une ritournelle, qui est la langue façonne nos représentations. Alors ça, c'est une espèce de lieu commun constamment proclamé, jamais véritablement analysé. C'est devenu, quand je dis un lieu commun, c'est-à-dire qu'on va le trouver proclamé aussi bien dans le champ médiatique que savant, ce qui est très troublant. Ça devient une espèce de slogan principiel qui serait un savoir axiomatique sur le langage. Hein. On remarque d'ailleurs que très souvent, la langue façonne nos représentations, voisine avec le langage façonne nos représentations, comme si langage et langue ne se distinguaient pas, alors que, de toute évidence, on parle de choses extrêmement différentes, dotées de propriétés différentes et qui ont été conceptualisées très différemment. Je ne parle même pas de la notion de discours, qui est déjà polysémique dans la théorie linguistique, dans les théories linguistiques, mais là encore, langue, discours, langage sont finalement utilisés de manière interchangeable dans les débats médiatiques, et cela prouve en soi déjà que les questions sont éminemment mal posées. Alors, et d'autant plus que je dirais que cet axiome, la langue façonne nos représentations, est aujourd'hui utilisé pour l'intervention sociale, pour les politiques linguistiques, pour proposer même des purges lexicales. Il y a des mots dont il faudrait se débarrasser. Il y a une écriture inclusive qu'il faudrait adopter. Et désormais, dans les universités, ce sont des référents qui sont chargés de l'application d'un vocabulaire moral qui est censé être réformateur et nous conditionner à une amélioration sociale et morale. Ces recommandations de référents, recommandation est devenue aujourd'hui un euphémisme pour un guidage lexical qui prétend contrôler par la langue notre pensée. Là encore, en lien parfait avec cet axiome de départ, la langue façonne nos représentations. Je vais partager l'écran si je le peux pour vous donner quelques citations qui en témoignent. On trouve chez des linguistes l'idée que des formes lexicales au générique masculin tendaient à amorcer des représentations masculines. Alors, tendre à, c'est une tendance. Amorcer, ça n'est pas un terme technique. Et des représentations, on ne sait pas trop ce que c'est. En trois mots, on a déjà un flou conceptuel très problématique. Et on va retrouver ça aussi bien dans le manuel d'écriture inclusive que dans ces recommandations. Je cite des courriers même d'universitaires. Il est clair que la langue sous-tend et construit des représentations mentales, etc. Je reviendrai peut-être sur ces citations si j'ai le temps, mais ce qui est fascinant, c'est que ces propositions existent à côté, en fait, d'un autre principe que les sciences du langage ont établi, c'est que le déterminisme linguistique est une doctrine qui a été réfutée et éliminée des sciences du langage. Donc, on a à la fois cet axiome qui revient, et alors qu'on sait très bien justement, je renvoie par exemple au petit livre de John McWhirter, The Language Hoax, Why the World Looks the Same in Any Language, qui démontre cette idée que la langue serait une vision du monde et qu'on verrait le monde de manière contrainte. Le déterminisme linguistique a été depuis longtemps remplacé par l'idée du relativisme linguistique. Comme le dit Cuglioli, pour parler de traduction, il dit il y a toujours altérité, il y a toujours équivalence. Et c'est au fond la dynamique des langues. Mais aujourd'hui, donc, on a des propositions un petit peu grandiloquentes qui prétendent donc dire que la langue façonne nos représentations. Or, cette proposition est en général assortie de recommandations idéologiques et morales. C'est ça qui nous interroge au fond, c'est cette prétention à fonder une morale sur une démonstration linguistique qui va justement à l'encontre du savoir linguistique qui a été établi depuis un siècle. Donc, je passerai sur les querelles médiatiques qui sont d'un niveau assez superficiel. Je signale simplement, parce que c'est emblématique de ces débats, la prétention de linguistes, je dis bien de linguistes, à considérer, c'est devenu un exemple célèbre, que aller chez le coiffeur est une formule sexiste par opposition à aller aux putes, et que les prépositions serait vectrice de sexisme parce que il faudrait dire aller au coiffeur, bien sûr, pour établir une espèce d'équilibre. Bon, quand on entend ça, évidemment, mettre en rapport des expressions qui n'en ont aucun, avec un singulier, un pluriel, un commerce, des personnes. Il n'y a absolument rien sur le plan de l'analyse qui justifie de mettre en rapport des formules comme ça. Et puis, bien sûr, considérer que la péjoration est dans la préposition et non pas dans le registre du mot pute, c'est quand même, je crois, se mettre la tête à l'envers pour démontrer absolument n'importe quoi. Mais ça situe bien le niveau du débat qui fait table rase de tout protocole méthodologique, de toute donnée. Hein, normalement, pour analyser ce genre de formule, il faudrait se demander comment construire plus préposition, plus groupe nominal, comment ça fonctionne, quel type de groupe nominal, si on a des pluriels, des singuliers, qu'est-ce qui se passe, etc. Bref, et surtout des énoncés, pas juste des formules comme ça, disons dictionnariales. Donc, il y a une forme de réalisme lexical, une illusion réaliste qui consiste à croire que dans les mots se nicheraient des réalités. C'est ce que j'ai appelé la préemption référentielle, c'est-à-dire croire que les mots désignent des choses et que, par conséquent, la conceptualisation du réel se ferait par la langue. Elle se fait dans la langue, mais certainement pas par la langue, car la pensée ne préexiste pas à un discours. Fréquemment, on va trouver cette idée que le lexique est porteur d'idées, de pensées, de visions du monde, et du coup, on va aboutir à des propositions qui sont de simples jeux de mots en réalité. Et fréquemment des hypostases, c'est-à-dire qu'on croit qu'on parle du réel, on croit qu'on parle des phénomènes, et en fait on parle des emplois du lexique. Je rappellerai de ce point de vue-là que le langage en tant que système symbolique, le langage et la langue en tant que système symbolique renvoient fondamentalement à ce qui n'est pas. Le langage est convocation imaginaire du temps, du possible, de l'impression, de la suggestion, du désir, de l'irréel. C'est tout cela que le langage permet d'exprimer. Très grammaticalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a affaire à de la modalité, à des conjugaisons, à de l'aspect, à des valeurs appréciatives, etc. Tout cela, ce sont des catégories qui sont caractérisées par leur dimension imaginaire. La modalité, devoir, falloir, pouvoir, ça n'est pas quelque chose qui existe, c'est un point de vue sur des contenus propositionnels. Cette dimension de non-immédiateté de la construction du sens, c'est ce qui fait du langage autre chose qu'un décalque, qu'un réflexe imitatif du réel. L'énonciateur est toujours dans un rapport avec ses contenus propositionnels qui est d'une certaine manière distancié par rapport au réel, distal, diront certains, et c'est précisément de ne pas avoir une langue qui collerait aux événements du monde qui permet leur représentation. Un exemple entre mille, la négation. Il faut bien, pour pouvoir mettre en place une négation, concevoir une représentation imaginaire de ce qui pourrait ou devrait être là. Je parle par exemple de la négation d'absence. Il n'y a plus de lait dans le frigo. C'est une phrase qui indique la représentation de quelque chose qu'on s'attendait à trouver. Bon. On dira, oui, mais ça dit bien quelque chose qui est réel. Certes, il n'y a pas de lait dans le frigo. Il n'y a pas non plus de tracteur de Notre-Dame de Paris, de Blaise Pascal dans le frigo. Il y a des milliards de choses qui ne sont pas dans le frigo. La construction de la négation d'absence nécessite des représentations très codées et qui reposent, là encore, sur l'imaginaire. On pourrait comparer cela, bien sûr, avec la négation de rejet, de type « je ne veux pas y aller », qui est une négation, cette fois-ci, d'un vouloir, un refus que quelque chose advienne. La négation polémique, de type « pour moi, ça, c'est pas du jazz hein, », bon, qui suppose justement l'appartenance catégorielle préalable pour pouvoir la réfuter. Ces choses-là montrent bien que le langage, c'est autre chose que reproduire des existences, des ontologies, des appartenances catégorielles. Et si j'ai parlé de l'articulation du discours dans mon titre, c'est parce que précisément les phénomènes définitoires de la structuration du langage rejettent l'idée d'une idéologie dans la langue, dans la mesure où l'un des fondements, je dirais, de la linguistique contemporaine, c'est de reconnaître qu'un dit n'existe que dans la mesure où il est énoncé. Évidemment, je m'inscris dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives de Antoine Cuglioli, mais l'idée de l'énonciation, c'est que le sens émane de la production d'énoncé par un sujet, à un moment précis, dans des circonstances précises, dans une interaction précise. De ce point de vue-là, aucune phrase dénuée d'un tel contexte ne peut avoir de sens. Si je dis « il est 7h30 », on dirait que ça décrit quelque chose de réel. Mais oui, mais on ne dit pas « il est 7h30 » pour dire qu'il est 7h30. On dit « il est 7h30 » pour dire « ah, il faut mettre le gigot dans le four, ah merde, je suis à la bourre, ah, faut aller chercher les gosses au judo, ah, c'est ça que veut dire « il est 7h30 hein. ». Ah, trop tard, les magasins sont fermés, ah, 7h30, bon, on a encore le temps, on part pas avant 8h30, etc. C'est-à-dire que « il est 7h30 », c'est l'indice de plein de choses. Et peut-être que l'heure elle-même n'est que un des éléments sémantiquement construits par cette phrase, et certainement pas la principale. Au fond, quand on dit « il est 7h30 », ça n'a rien à voir avec une affirmation qui serait une impulsion à dire l'heure qu'il est. On dit l'heure qu'il est parce qu'on argumente en fonction de quelque chose qui entre dans une interaction. L'idée que le lexique serait l'indice d'une vérité du monde se heurte à de nombreux phénomènes, notamment la polysémie et la synonymie. Le fait d'avoir plusieurs façons de dire et que les mots eux-mêmes renvoient à plusieurs choses, bref, que tout soit manipulable par la formulation, et la traduction nous le montre quotidiennement, montre bien qu'il n'y a pas de fixité du lexique. En fait, et c'est là où j'en viens à la question de la représentation, l'usage des signes, l'usage que nous avons des signes contredit la conscience que nous croyons en avoir. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'ils font de la recherche linguistique. S'il y avait une transparence des fonctionnements du langage, on le saurait. L'évolution de la langue, bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais nous n'avons pas conscience nous avons à la fois conscience d'une partie de ce que le lexique comporte, et nous en oublions une bonne part. Et surtout, et c'est pour ça que la notion de représentation est très très problématique, quelle représentation avons-nous de ce que signifie un mot ? Au fond, quand j'utilise le mot éclair, tout le monde sait ce que c'est un éclair, tout le monde peut décrire le phénomène météorologique, et pourtant, cet éclat de lumière transitoire, si c'est ça sa définition, ça correspond assez mal à un éclair au chocolat ou à une fermeture éclair ou même à un éclair de génie, etc. C'est-à-dire que nous savons très bien qu'en fait, ce mot, nous l'employons autrement que la façon dont nous le définirions. Ce qui veut dire aussi, du point de vue de l'usage des signes, que le mot éclair n'a pas de référent tant qu'on ne l'a pas construit dans un discours. Tant qu'on ne l'a pas employé, tout ce potentiel de sens n'existe pas. J'en donne un autre exemple parce qu'il est, je pense, précieux. Nous savons très bien, nous croyons savoir ce que veulent dire les mots. Quand nous disons le mot « église », il ne nous paraît pas spécialement problématique du point de vue du sens. Pourtant, si on dit, si on donne un trajet par exemple, tu vas à l'église, tu continues, après sur la droite il y a le bistrot. Bon, le mot église désigne un bâtiment. Si je dis que je vais à l'église tous les dimanches, le mot église désigne une observance rituelle. Si je dis l'église avait mis à l'index tel auteur, je parle de l'église catholique et je parle de ses institutions. Si je parle de séparation de l'Église et de l'État, Église désigne le principe religieux et pas une Église en particulier. Et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas d'énoncé qui ne construise un référent différent. Une institution, un bâtiment, une architecture. Quand on dit Église romane, on parle d'architecture, on ne parle pas de trajet, etc., etc. Ça veut dire que le lexique que nous nous représentons comme établissant le lien le plus intuitivement indiscutable, eh bien, en réalité, ce lien entre le signe et la chose, eh bien, en réalité, le lexique indique qu'il est constamment en attente de spécification. Il n'y a pas de référence en dehors d'un discours. Le lexique n'est qu'un mode d'accès à la dénotation qui n'est pas contenu dans le mot, si on veut. C'est pour ça que plutôt que de référent, il serait plus juste de parler de référenciation. Et la référenciation, c'est une activité, c'est du discours. Bref, le lexique, ça n'est pas une collection d'ontologie. Il vaudrait mieux le voir plutôt comme une série de briques de Lego qui ne sont rien en elles-mêmes tant qu'elles ne servent pas à construire un ensemble. Et il faut bien voir, pour reprendre le mot église, que cette plurisémie, elle est en réalité consubstantielle au fonctionnement lexical des mots qui servent en fait de mode d'accès au réel comme des petites clés multiples et il est excessif de vouloir partir de ces mots pour parler de représentation et encore plus pour en tirer des conclusions morales. Car c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. On parle dans le champ idéologique de représentation de genre, de représentation de race, etc. Bref, un imaginaire bien commode puisqu'il n'est ancré dans aucune donnée. On parle de représentation sans dire s'il s'agit de discours, d'images, de processus cognitifs, de quelque chose d'individuel ou de social, etc. Rien n'est moins évident, au fond, que de savoir ce qu'est une représentation. Quand on entend donc cette idée que la langue penserait à notre insu, qu'elle véhiculerait de l'idéologie, c'est une proposition tout de même très audacieuse. La langue n'est pas qu'un instrument, elle forge les représentations, elle établit une norme, et on va trouver ça aussi tout le temps, la notion de convention, on trouve ça là, dans les citations que j'ai mises d'une thèse sur le langage comme lieu de lutte, Preciado qui parle de convention linguistique qu'il faudrait éliminer par l'invention d'un langage. Pour moi, la tâche de la philosophie, c'est l'invention d'un langage. La langue n'est pas l'agent d'une pensée, précisément parce qu'il n'y a pas de pensée sans sujet. La langue ne pense pas à notre place, elle n'est pas et elle n'existe pas non plus comme un objet qui serait inerte et qui serait une possession, qui serait changeable. La langue est le produit de l'activité de langage dans un échange, dans une intention de signification. Le sens ne préexiste pas à la construction d'un prédicat. Il n'y a pas de discours qui ne soit proféré, il n'y a pas de pensée qui ne soit articulée par un sujet pensant. Et finalement, j'avais mis dans mon exemplier quelques citations de Bergson et de Jean Kelevitch, parce que il y a, que ce soit dans l'essai sur les données immédiates de la conscience ou dans l'énergie spirituelle, il y a quelque chose qui a été formulé par Saussure hein, aussi, hein, quand Bergson dit pour que la pensée devienne distincte, il faut qu'elle s'éparpille en mots. Cet effort n'eût pas été possible sans la matière, par la résistance qu'elle oppose et par la docilité où nous pouvons l'amener. Elle est à la fois l'obstacle, l'instrument et le stimulant. C'est ce qui fait dire à Jean Kelevitch que la langue, mais il en parle aussi pour d'autres notions, est un organe obstacle, c'est-à-dire à la fois ce qui permet et ce qui contraint. Je pense qu'il faut effectivement voir la langue comme un organe obstacle et pas comme un agent de la pensée qui penserait à notre place et qui nous ferait penser, qui nous ferait nous représenter les choses. C'est pour cela que la prétention de certains linguistes actuellement à l'équité par le langage relève davantage du marketing politique que d'une pensée réel, que ce soit du langage, de la phénoménologie ou de la psychologie. Cette complainte égalitaire est fréquemment fondée donc, sur ce mensonge aussi qui est la représentativité dont la langue devrait être le lieu, hein, comme si la parité s'appliquait à la grammaire et comme si cette parité-là, on pouvait l'assigner à des signes, à des marqueurs, et uniquement à certains d'entre eux. Hein, ça aussi, c'est une dimension remarquable du discours actuel, c'est de penser que seul le genre, par exemple, serait concerné par cet axiome de « la langue façonne nos représentations ». Curieusement, cette proposition, on ne l'applique jamais au pronom relatif ou à la conjugaison. Ça ne concerne que des thématiques sociales. Donc, le reste de la langue, par contre, serait bizarrement inerte, bizarrement sans effet. Ou alors, et certains vont très loin là-dedans, ça c'est dans notre livre Le sexe et la langue, vous avez certains qui veulent à tout prix voir un lien, par exemple, dans l'économie entre le système de temps et la capacité à faire des économies. Là, on plonge dans le mysticisme, on plonge dans des choses qui ne relève plus évidemment de données tangibles. C'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Donc, mes démonstrations seraient sans doute trop longues, mes exemples aussi, et je préfère conclure que la nécessité de construire des observables quand on parle de langue et de langage. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une forme de proclamation du genre, de la domination, de la convention, comme si c'était des choses qui avaient une évidence, c'est tout sauf évident, mais on voit une tendance purement rhétorique, je pense, à l'exaltation du langage. Il est assez fait. En gros, vous voyez des gens qui, en se fondant sur un ethos littéraire, poétique ou militant, vont construire n'importe quel énoncé. En fait, vous pouvez dire le langage et la sortir de n'importe quelle proposition, ça paraîtra profond. La langue est fasciste, la langue reproduit des imaginaires genrés, la langue. Dites ce que vous voulez derrière cet ethos péremptoire. les moyens stylistiques qui sont ceux de l'assertion non modulée et d'un lexique un petit peu conceptuel permet de dire tout et n'importe quoi. Fréquemment d'ailleurs, à la faveur de ce que j'ai appelé l'antanaclase argumentative, c'est-à-dire qu'on va avoir des mots qui vont circuler, comme le mot « genre » par exemple, sans qu'on les utilise avec le même sens. Hein. C'est-à-dire que parler de genre pour des mots et parler de genre pour des personnes, c'est évidemment employer le mot « genre » dans un sens tout à fait différent. Mais la confusion est telle, et ça c'est proprement une antanaclase sur le plan stylistique, et on le trouve dans des écrits de linguistes hein, qui vont dire que on ne peut pas ne pas faire le lien entre le genre dans la grammaire et le genre en termes de sexualité. Eh bien, justement, c'est un lien qui est frauduleux, c'est un lien qui repose sur un jeu de mots. Et cette antanaclase généralisée finit par confondre langue, langage, discours, grammaire, discours sur la grammaire, et sans égard aucun pour ce qu'est réellement la langue. Alors, ce décret symbolique, sans données, sans factualité autre que l'intuition, c'est un des dangers qui guette la philosophie et les sciences humaines, et c'est pour cela que je pense que seule une conceptualisation rigoureuse prête à se remodeler aussi face au réel, face aux données, peut sauvegarder la raison contre les bigoteries actuelles qui prétendent contrôler le langage, la langue, et c'est pour cela que l'on pourrait peut-être réclamer une nouvelle prise de conscience linguistique sur le plan méthodologique, bref, un nouveau linguistic term. Voilà, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup, chers collègues. Nous allons donc ensuite entendre le professeur Salvador.
Merci, madame le professeur, et merci à Jean. Donc, je reprendrai pour ma part en posant la question donc, de l'accès finalement au sens et la position finalement qu'occupe le texte ou qu'occupe le mot dans cette quête qui caractérise nos contemporains. Qui est une quête que j'assimile, c'est un des projets qui, moi, m'intéresse le plus. J'avais publié autrefois un ouvrage qui s'appelait « Archéologie et étymologie du sémantique à travers les traductions de la Bible ». Je pense que, finalement, on est confronté aujourd'hui à une forme d'iconologie de la langue, du texte lui-même, qui traduit une pulsion chez chacun de nous, comparable à ce qu'on peut voir dans les textes, que je vais essayer de vous montrer maintenant, qui rejoint une question de l'identité, une quête de l'identité qui se traduit tantôt par la connaissance d'une forme de commencement, une forme d'origine, et qui oscille entre cette quête du vrai et cette quête du commencement. D'un côté, une archéologie du sens, enarché, le commencement, qui cherche à voir à travers la forme du mot sa source et qui cherche à remonter vers une forme de commencement où la quête de l'identité trouverait enfin sa solution à travers la démonstration d'une évidence qui serait celle du premier moment qui transparaîtrait dans la découverte des origines, et tantôt une oscillation qui amènerait les contemporains à voir dans le mot, dans l'écriture, dans l'orthographe, non pas une représentation du commencement, mais une représentation du vrai, qui se symboliserait à travers une forme de savoir immanent que le mot dégagerait de lui-même. C'est l'opposition qu'il y aurait d'une certaine façon entre l'archéologie sémantique, qui serait la démarche scientifique pratiquée par les sciences contemporaines quand elles s'intéressent à remonter à l'étymon d'un mot, en remontant à la langue N plus 1, du français au latin, et du latin à son premier ancêtre, et les étymologies chrétiennes à la façon d'Isidore de Séville, qui cherche dans le mot non pas une vérité scientifique, mais un support de la démonstration d'une vérité révélée. Et on oscille dans cette quête entre d'un côté une démonstration de la source, de l'autre une démonstration de la vérité de la cible. La vérité ou l'identité ne se trouve sans doute jamais vraiment là où l'on voudrait qu'elle soit. C'est le danger qui, par exemple, est tendu aux chrétiens qui verraient dans la source hébraïque la vérité du texte biblique, et il ne lui resterait alors plus qu'à se convertir à la religion juive pour comprendre qu'il est la vérité du texte étymologique et archéologique. Mais c'est également le fantasme qui piégerait celui qui verrait dans la magie des mots une forme de représentation iconographique de la vérité, de l'identité dont il est en train de chercher la manifestation. Au cœur de cette tension entre d'un côté la quête du commencement, énarché, et de l'autre étymos, une quête de la vérité que manifesterait la forme même du mot, dans une espèce de respect quasi magique qui verrait dans le mot quelque chose de profondément concret et réel, manifestant, comme disait tout à l'heure Jean, une forme de réalité ou d'essentialisation des objets qu'il dénote. Eh bien, on a cette manifestation d'une quête du sens dont la traduction, par exemple, reflète particulièrement les enjeux et particulièrement le texte biblique. Et donc, je vais m'intéresser très rapidement à cette question, si vous voulez, de la question de l'archéologie et de l'étymologie à travers le texte médiéval pour vous expliquer pourquoi j'y vois une clé d'interprétation des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et je prendrai simplement l'exemple de Genèse 6:16 que vous devez avoir sous les yeux, j'espère, je ne sais pas, je ne vous vois plus, c'est très perturbant. Et donc, dans Genèse 6:16, si vous voyez, ce qui est intéressant dans le texte de la Bible historiale, c'est que vous voyez qu'il est dit « Fenestra minerca facies et in cubito consuma visumita temeius », traduit en ancien français par « la fenêtre qui fut faite en large signifie la plaie qui avait été faite au côté Jésus-Christ ». Et vous voyez que dans une perspective moderniste de traduction, on est tout à fait aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre d'une traduction respectueuse du texte source ou de l'horizon d'attente du texte source, puisque le texte hébraïque est révélé dans sa signification non pas antique, mais profondément moderne. Autrement dit, la traduction ne réfère pas à ce que le texte disait, mais il est simplement transmis avec l'interprétation de ce que le texte doit dire pour un moderne, c'est-à-dire pour un chrétien. Et vous voyez que l'attachement à la forme et à la traduction devient un attachement respectueux de l'objet texte, mais qui cherche à osciller, à faire basculer de l'archéologie du texte vers une étymologie du texte qui est le sens révélé. Et le texte biblique médiéval se caractérise par cette forme de fétichisation du texte écrit qui se manifeste par un respect hérité de saint Jérôme qui disait que le texte est sacré jusque dans l'ordre des mots. Et donc le texte français, dans ses premières traductions, pour des raisons que je ne développerai pas, je n'en aurai pas le temps, mais pour des raisons qui sont liées à la sacralité du texte, respecte la forme du mot et joue en permanence à manipuler le texte pour qu'il soit toujours fidèle à la traduction, soit de l'Historia Scholastica de Comestor, de Pierre le Mangeur, pardon, soit à la traduction de la Glossa Ordinaria, mais pour qu'en permanence, le chrétien puisse y trouver la révélation d'un sens chrétien, c'est-à-dire d'un sens moderne, qui ne cherche pas, ou qui, en tout cas qui fait totalement abstraction, de ce que nous appellerions, nous, l'horizon d'attente du texte source, c'est-à-dire la vérité archéologique du texte, est délaissée au profit de la révélation d'une vérité moderne. Et vous avez ici l'exemple de Genèse 17, hein, « Tu mourras de mort, de morte morieris », qui va être traduit à partir de 1295 par « Tu mourras de mort, voire de la mort de l'âme ». Et le traducteur va chercher, en fait, dans l'Historia Scholastica, un scilicet animae qui avait été ajouté par un commentateur chrétien du Moyen-Âge pour donner un sens enfin compréhensible pour un chrétien du XIIIe siècle au texte antique, faisant abstraction de la vérité du texte d'origine. Et le texte joue en permanence, si vous voulez, entre un respect de la forme du texte et la manipulation argumentative qui va permettre d'y insérer, de révéler un sens qui soit compatible avec l'horizon d'attente, non pas du texte source, mais du chrétien moderne. Ce sont les insertions, par exemple, d'autorité supplémentaire, c'est le rôle joué par Pierre le Mangeur, souvent dans le texte en ancien français, qui permet en fait au traducteur moderne, traducteur médiéval, pardon, de s'emparer du texte et d'insérer des corrections, des épanorthoses qui vont lui permettre d'ajuster le sens et la révélation du texte afin d'arriver à montrer que ce que le texte hébraïque dit, qui pourrait être mal interprété, signifie en fait quelque chose de profondément acceptable par un chrétien. Cela joue sur toutes les révélations, toutes les étymologies au sens moderne que l'on peut donner à la chose. C'est par exemple la traduction des prénoms. Hein, il a été appelé Jacob, et on a bien raison de dire qu'il s'appelle Jacob, car il m'a déçu. Ce sens, par exemple ici, ne peut être acceptable d'un point de vue purement logique que par quelqu'un qui parle l'hébreu et qui sait que Jacob étymologiquement est lié à Hakeb, enfin peut-être lié à Hakeb, le talon, ou à Hakeb, Hak, qui signifie voler. Ici, que signifie l'insertion d'une expression comme « c'est-à-dire m'a-il déçu » Cela ne peut se comprendre que dans l'illusion d'une forme argumentative qui permet de donner sens à un énoncé en référence à un arrière-plan qui n'est pas accessible à celui qui lit la traduction, sinon il lirait le texte d'origine, mais cela permet en tout cas de cautionner la vérité du texte et d'affecter au texte une forme de plus-value de véracité qui engage à la fois la parole du traducteur et son lecteur qui du coup devient en quelque sorte fidèle aux enseignements qui sont révélés. Et il en va d'ailleurs de même pour des énoncés qui traduisent l'hébreu directement dans le texte en ancien français, lorsque par exemple le Guillard des Moulins parle de la maison d'âme Dieu comme d'un lieu dit en Israël, puisque le Domus Dei latin est déjà une traduction de El Bethel, mais qui devient la maison d'âme Dieu en ancien français, et aucune carte ne fait évidemment mention d'une maison d'âme Dieu en tant que lieu. Et on pourrait encore jouer, si vous voulez, sur les procédés de restitution. Par exemple, l'épisode connu du baptême de la femme, hein, « Idest awiro acta est », dit saint Jérôme, reproduisant un jeu de mots sur « ish » et « isha » en hébreu. Il préserve le jeu de mots sur l'ajout morphologique d'une marque féminine pour la création de « ish » « isha », qui est déjà une interprétation qui pourrait être un peu modérée. Il la sauvegarde en français en disant « elle s'appellera Wirago Kuya de Wiro Sumta Est, parce qu'elle est prise de Wiro. » Et on voit tous les embarras et toutes les contorsions du texte français pour préserver la matérialité orthographique du jeu de mots biblique étymologique. Elle est os de mes os et ses chars de ma char. Cest sera appelée Wirago, car elle est prise et faite d'homme. Ici, la justification argumentative introduite par « car elle est prise d'homme » est évidemment totalement opaque en termes d'argumentation. Personne ne peut comprendre le lien morphologique qui existe entre « homme » et « wirago » s'il ne possède pas l'arrière-plan latin « wiro wirago ». Évidemment, le lecteur francophone n'a pas accès au texte latin, et donc tout ce qui subsiste ici du texte, c'est l'illusion d'une cohérence argumentative ou d'un sens caché auquel le texte pourrait donner accès si on pouvait aller un peu plus loin que le texte. Et il n'y a qu'un auteur, dans ma connaissance, qui a réussi à sauvegarder le jeu de mots en ancien français, c'est Massé de la Charité, qui, à la fin du XIIe siècle, avait proposé « Icette et baronne nommée, car elle est prise de baron ». Et là, on voit qu'il y a une sauvegarde du jeu de mots par l'ajout d'un morphème, enfin d'une marque du féminin à baron pour préserver le jeu de mots qu'il avait pressenti en latin, wiro, wirago, qui lui-même était une sauvegarde du jeu de mots hébraïque. Cette matérialité de l'écriture, donc je m'arrête là pour vous parler du texte biblique, mais elle manifeste, si vous voulez, une tension qui cristallise autour de la réalité d'une forme d'orthographe et d'une matérialité textuelle qui, par métonymie, connote la richesse du texte qui le contient. Cette préciosité du texte, d'où découle la préciosité du sens dénoté par les mots du texte, elle se retrouve lorsqu'Olivier Tan traduit pour la première fois la Bible en français et qu'il dit qu'il va transférer les évangiles des armoires grecques et latines dans ce qu'il appelle les bougettes du français. Hein, on passe des armoires grecques et latines aux bougettes du français. Bougette, c'est un joli mot qui a donné l'anglais budget, hein, le budget, c'est-à-dire la petite boîte. On passe des armoires précieuses aux bougettes du français, c'est-à-dire à boîtes sans valeur, sans intérêt et sans prix. Cela signifie que les gens accordent une valeur et une importance à la matérialité de la langue et qu'ils voient en fait dans l'écriture la métaphore du sens précieux contenu dans le texte. Le texte latin, je pourrais vous le prouver, lorsqu'il est traduit en ancien français, est perçu par le traducteur comme étant de plus grande importance que le texte écrit en français. C'est lié à la préciosité, évidemment, du texte lui-même, qui est conservé dans des manuscrits précieux, mais c'est lié aussi à la préciosité du sens qu'il embarque. On pourrait penser que le texte français est considéré comme lingua sacra dès lors qu'il peut traduire le texte français, mais finalement, toutes ces précautions argumentatives montrent qu'en permanence, le traducteur travaille à compenser la déperdition de valeur qu'il sent lorsqu'il passe de la matérialité du texte latin à la matérialité du texte français. Les choses changent sans doute dès lors qu'on va se poser la question de l'orthographe et de la due écriture. L'orthographe concrétise théoriquement, probablement pour la première fois, l'idée que la matérialité de l'écriture peut être en soi le support d'une rigueur et d'une valeur morale. Le XVIe siècle, la Renaissance, est le siècle de l'écrire juste. C'est le premier siècle à poser la question de l'écrire juste et de l'orthographe. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, et si le français, je le dis un peu de manière provocante, est évidemment une langue qui n'a, le français que nous parlons est une langue qui n'avait jamais été parlée par personne avant 1550, c'est une langue de pure invention. Je sens que je suis un peu provocant, mais ce n'est pas grave, je réserve ça pour tout à l'heure. On peut dire que la question de l'orthographe se pose dès lors que justement on prend conscience de l'importance de posséder des règles de codification qui sont d'abord liées au texte imprimé sans doute, mais aussi à l'universalisation et à la diffusion des textes écrits. Et on trouvera pour la première fois, sous la plume de Geoffroy Thory, qui est probablement l'auteur humaniste le plus complet de cette période, celui qui va faire vraiment basculer la langue dans la modernité, pour la première fois, donc on trouvera dans le Champ Fleury l'emploi du mot orthographe, puisqu'il le dit lui-même, hein, la ressemblance à la dite aspiration latine de la vocale grecque ita a été cause que mille modernes ignorant la langue grecque ont erré et errent tous les jours en l'orthographe, c'est-à-dire en la due écriture de ces deux souverains et précieux noms, Jésus et Christ. Et donc l'orthographe, la question de l'orthographe se cristallise évidemment sur comment faut-il écrire Jésus-Christ, et par orthographe, Geoffroy Thory entend dans un premier lieu la manifestation rigoureuse et morale qui est due au Christ lorsqu'il s'agit de l'écrire. Et c'est ça l'orthographe. C'est donc une question de manifestation d'une forme de vérité à travers la pratique orthographique. Parce que au-delà de la pratique orthographique, se pose la question de la révérence et du sacré, et donc de ce que les gens voient en plus de la dénotation portée par le texte, et donc tous les phénomènes de connotation qui avaient déjà été soulignés, notamment par Jean tout à l'heure. Geoffroy Thory, donc, est le premier imprimeur du roi sous François Ier, enfin, je crois que tout le monde le connaît, il va le rompre le premier avec certaines traditions du texte latin, il va quand même sauvegarder et importer dans le français nombre des pratiques orthographiques qui sont idéologiques, et ça va être un peu la deuxième partie de mon exposé, montrer que l'orthographe, dès lors qu'elle est une prise de conscience de la révérence due à l'écrit et donc au sens sacré qu'il contient, se pose la question de l'image de la civilisation que transmet l'orthographe lorsqu'elle est pratiquée. Ils ne savent donc toujours, j'en vois qui veulent écrire en grec et en latin, dit-il dans Champfleury, et qui ne savent pas encore bien parler français, il me semble sous correction qu'il serait plus beau à un français écrire en français qu'en une autre langue pour la sûreté de son dit français que pour décorer sa notion et enrichir en langue domestique qui est aussi belle et bonne qu'une autre quand elle est bien couchée en écrit. Hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et pour le dire, les mots viennent aisément. Donc, on est un peu avant 1530. Voilà, on voit quand même qu'on avait une part importante déjà de ces enjeux, si vous voulez, du bien-dire, qui seront un peu plus tardifs, je vais vraiment en parler. Geoffroy Thory a sans doute été important, je ne m'étends pas, mais on trouve notamment une petite anecdote dans Champfleury que j'ai mise ici en valeur. C'est le passage donc dit du Limousin. Vous voyez ici, ce sont écumeurs de latin, plaisanteurs et jargonneurs. Quand écumeurs de latin disent des poumons la verbocination glaciale et transféront la séquane au diluc de crépuscule, puis déambulons par les quadrivias cette platée de lutèce, etc., etc. Ce passage-là résonne quand même aux oreilles des rabelaisiens, puisqu'il s'agit justement du passage dit des écumeurs de latin qu'on trouve dans Pantagruel, livre 2, chapitre 6, et que Rabelais reprend mot pour mot, hein, ici dans le passage dit du Limousin. Et à quoi passez-vous le temps, messieurs les étudiants, ou dit Paris, l'écolier répondit, d'espumons la verbocination latiale et transférons la séquoine au dilucule et crépuscule, puis déambulons par les quadrivies et platées. Geoffroy Thory meurt en 1532, et les premières éditions de Rabelais sont de 1533. Donc, si vous voulez, si le texte subsiste, c'est qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas dans l'environnement de Geoffroy Thory et de Rabelais, pour qu'à un moment, il y ait eu une rencontre, une survivance, une coécriture, je ne sais pas. Mais il y a là de quoi quand même montrer que le texte de Geoffroy Thory n'est pas anodin et que donc la question de l'orthographe est évidemment essentielle. Geoffroy Thory, là encore sur l'orthographe, est le premier à poser l'idée qu'il faut donc enseigner. Il faut d'abord, un, parler français avant d'apprendre le grec et le latin, Evelyn pour Montaigne. Et deux, il faut apprendre le français, le pratiquer et enseigner donc la dite orthographe. On trouve une anecdote qui me semble également intéressante, encore chez Geoffroy de Théorie, que je voudrais simplement vous raconter, puisque nous parlons en partie de ces problèmes d'idéologie liés à la pratique de l'orthographe. Et on va la trouver donc chez Geoffroy de Théorie, au livre 3 de Champfleury, lorsqu'il explique qu'il existe un phénomène un peu typique qu'on appelle le parler des femmes. Et donc, qu'est-ce que c'est que le parler des femmes? Eh bien, pour le dire en un mot, il explique que la règle de la liaison du français moderne, celle qui fait que nous disons « les amis », mais « le chat » sans prononcer le T final, est en fait une bizarrerie de la pratique de la langue des femmes. Et donc, il l'explique, après avoir expliqué que donc il y a quand même des particularités des langues des femmes. Les dames lyonnaises prononcent gracieusement « a » pour « e » quand elles disent « choma chata feta », et qu'au contraire, les dames de Paris, en lieu de « a », prononcent « e » bien souvent quand elles disent « mon mairie est à la porte de Paris ». C'est l'origine de la prononciation « payer » au lieu de « payer ». On remarque qu'elles ont fait prévaloir en partie leur prononciation en d'autres lieux, puisque Geoffroy de Théorie nous explique que c'est à elles que nous devons de ne plus prononcer notamment les S finales du pluriel que dans les circonstances exceptionnelles qui sont celles de la liaison. Le texte donc est ici, et il explique donc ici que les dames de Paris, pour la plus grande partie, observent bien cette figure poétique en laissant le S final de beaucoup de dictions, quand au lieu de dire, sous-entendu, pour nous les bons hommes, nous avons Disney en un jardin et y avons mangé des prunes blanches et noires, des douces et amères, des figues molles, des pommes, des poires et des gruseilles, elles disent et prononcent, nous avons dîné en un jardin et y avons mangé de prunes blanches et noires, des amandes douces et amères, des figues molles, des pommes, des poires et des gruseilles. Et donc, moi, je trouve extrêmement intéressant de rappeler simplement ce petit épisode, c'est que donc c'est au parler des femmes que nous devons la règle de la liaison du français moderne. Et il ajoute, parce que c'est un mal hétéropatriarcal blanc dominant, ce vice leur serait excusable si n'était qu'il vient de femme à homme et qu'il s'y trouve en tiers abus de parfaitement prononcer en parlant. Voilà. Mais ce vice étant pardonné, on trouve ici un phénomène assez intéressant, à savoir qu'on a donc une forme d'idéologisation de l'orthographe qui passe notamment par cette prise de conscience de certains parler. Et ce que j'apprécie beaucoup, si vous voulez, dans cet exemple, c'est qu'il distingue entre le parler des femmes lyonnaises et le parler des femmes parisiennes, mais que là, quand il s'agit de la liaison, on voit que c'est un phénomène transversal qui affecte en fait toute la France. Donc ça, c'est plutôt amusant. On doit à Geoffroy de Théorie un gros travail sur justement une forme de réflexion autour des marqueurs idéologiques orthographiques. Il utilise le point « ainsi », le point d'ague, ici, hein, il le dit, les hébreux ont une autre manière de point qui est dit en son nom d'ague, lequel est mis au milieu et ventre de certaines lettres. Et alors, il sait lettre, ayant dans elle se dit point, sonne si fort et prononciation qu'il semble qu'elle soit double ou géminée. Et donc, il préconise, par exemple, qu'il faut importer en français le point d'ague ou point ainsi. Il utilise l'orthographe pour, évidemment, pratiquer un système de connotation. Évidemment, on renvoie au premier calligramme. Et donc, cette modernisation de la langue nous permet quand même de rappeler qu'il existe 5 fonctions de l'orthographe, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. La morphologique que tout le monde peut se représenter, c'est celle qui consiste à ajouter au mot un marqueur morphologique. Historique, c'est le mot dont nous héritons. Diacritique, c'est la lettre qui se conserve dans la langue mais qui ne se prononce pas. Ornementale, c'est celle qu'on utilise pour faire joli et dont nous avons hérité en français lorsque nous écrivons « lisse » avec un « y ». Ou nymphe avec un Y, mais surtout une fonction étymologique qui permet en fait de rajouter en langue un ensemble de graphèmes, un ensemble de signes qui ont pour fonction de rattacher la langue à une histoire idéologiquement marquée. Je donnerai 2 exemples que tout le monde peut facilement se représenter. Le premier, c'est notamment au XVIe siècle, le rajout du C de savoir, lorsqu'on écrit scavoir au lieu de savoir. Pourquoi rajoute-t-on un C? Eh bien, parce qu'on a honte du mot savoir qui vient de sapere en latin signifiant goûter. C'est quelque chose de laid, de profondément terrestre, alors qu'on préférerait le rajouter à scire qui a donné science. Et donc, idéologiquement, on rajoutera un C à savoir afin de le tirer vers une origine plus noble. Mais ce travail entrepris par Geoffroy de Théorie lui a permis de tirer la langue vers d'autres origines. Et c'est notamment à Geoffroy de Théorie qu'on doit l'insertion en français de signes tirés notamment de l'hébreu. Je pense notamment au trait d'union qui est emprunté au caractère hébraïque makaf, possédé par Gérard Étienne pour le Collège de France, et qu'on va importer en français pour l'orthographe de Jésus-Christ, encore une fois, parce qu'on trouve bien que la pensée de l'orthographe et moteur de ses réflexions. Je passe sur la CEDIV. Et puis, pour l'anecdote, c'est à lui également qu'on doit l'invention du guillemet français, qui est en fait tiré du lambda couché grec, qui avait déjà été mis en place et utilisé par Isidore de Séville précédemment, mais Geoffroy Théry l'importe, et c'est l'origine de ces guillemets français que nous utilisons dans nos textes. On ne fait pas comme ça, on fait comme ça quand on est disciple de Geoffroy Théry. Alors, simplement ce petit parcours très rapide pour montrer que la question de l'archéologie et de l'étymologie au sein de l'orthographe montre qu'il y a un enjeu idéologique attaché à la question orthographique. Et ce n'est pas nouveau. Voilà, ça a toujours été un enjeu de débat. Et il n'est pas étonnant que l'orthographe soit encore aujourd'hui un enjeu de débat et de discussion au sein des écoles universitaires. Ce qui change, c'est que la quête du sens qui semble traverser l'orthographe, lorsque par exemple on veut faire de l'orthographe le témoin d'une idéologie ou d'une histoire ou d'une étymologie linguistique, semble aujourd'hui s'arrêter à la matérialité de la langue et semble perdre la question symbolique de la langue au profit d'une forme d'iconification de la langue, de l'orthographe, comme si l'image orthographique du mot devait être le reflet de ce que bien évidemment la langue voudrait dire et de ce que la langue devrait signifier au sens où elle le montre. L'histoire de la langue nous montre que la marque du féminin a une longue histoire sur laquelle je passe, mais elle doit quand même nous permettre simplement de revenir pour la question du genre à deux questions. Vous aviez raison, Madame le professeur, tout à l'heure de dire que nous étions psychologisants, mais quand même, les grammairiens ont un peu sauvé leur peau depuis quelque temps. Les origines du féminin en langue, d'où viennent-ils? Il y a eu trois moments dans l'histoire de la langue. Le premier était puissamment psychologisant et puissamment anthropomorphique. C'était notamment Bréal qui incarnait cette idée que le féminin témoigne de croyances animistes des anciens peuples indo-européens qui avaient attribué un sexe à des objets inanimés tels que l'eau, le feu, le soleil, la lune. Cette fonction psychologisante et anthropomorphique a, selon Bréal, évidemment constitué la langue, et c'est pour ça que les mots sont tantôt féminins, tantôt masculins. C'est un cratilisme. Mais c'est le cratilisme avec lequel nous sommes en train de renouer quand nous mettons des petits cœurs sur les i, des points au milieu des e, et je ne sais pas, des petits clitoris, enfin, vous mettez ce que vous voulez dans vos mots, mais enfin, c'est avec ça que nous renouons. C'est-à-dire avec une vision psychologisante anthropomorphique dont on s'était débarrassé depuis grosso modo 1882. Ce biais psychologisant, il est également à l'œuvre chez l'un des plus grands grammairiens qui avait produit une des plus grandes grammaires productives dans les années 60 à la Sorbonne, c'est celle de Pichon et Wagner, lorsqu'il dit notamment, dans « À l'aise dans la civilisation », revue française de psychanalyse, Pichon était du côté de la psychanalyse, « La femme est passive, elle est une mère pondeuse, et c'est comme les déesses que sont conçues ces qualités abstraites, sortes de puissances mères qui permettent à leurs possesseurs de refaire indéfiniment un certain ordre d'action. La mère est d'aspect changeant comme une femme, journalière, d'humeur mobile, comme une jolie capricieuse, attirante et dangereuse. C'est pour ça qu'elle est féminine. » Bréal, archéologie. Pichon, étymologie. C'est-à-dire qu'il coupe avec l'idée un peu animiste qui lui semble quand même bizarre, mais la vérité est ailleurs, elle n'est pas dans l'histoire, elle est dans l'homme lui-même qui manifeste dans le genre quelque chose de plus puissant. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui quand nous voyons réinventer cette question d'essentialisation de la race mentale et du genre mental à travers les textes tels qu'on le vit aujourd'hui. Or, la question avait été depuis longtemps réglée par deux linguistes, Meillet en premier, qui dit que même quand il désigne des êtres sexués, les substantifs indo-européens n'ont pas la même marque du féminin ou du masculin. Les noms de parenté tels que latin, mater, frater, mater, soror, n'ont pas de thème, leur flexion n'est pas la même. Il ajoute même que nauta, latin, vous savez, tous les mots en a, nauta, scriba, qui sont à thème en a, sont en fait masculins. C'est un héritage de l'indo-européen dans lequel les mots à thème en a peuvent être tantôt masculins ou tantôt féminins. Et donc l'hypothèse archéologique ne tient pas la route. Et la chose est résolue par Martinet, qui dit qu'il est inconcevable que la distinction d'un genre féminin soit apparue dans les circonstances où elle ne correspondait pas à un besoin de communication. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean tout à l'heure, le sens n'est pas en dehors de la langue, il est dans l'emploi de la langue, uniquement dans un cas bien précis, celui qui est dicté par le besoin de la communication et le principe de pertinence tel que défini par Sperber et Wilson. Lorsqu'on a un mâle et une femelle et qu'on n'a pas de mots pour les distinguer, on rajoute un thème féminin. Voilà, point barre. Et de là dérivent des pratiques morphologiques qui ont leur raison d'être dans les règles de la langue. Et la question du féminin se trouve là. C'est pour ça que les principes, si vous voulez, de l'écriture inclusive, pour n'en dire qu'un petit mot, dont on trouve des manifestations un peu partout jusqu'à aujourd'hui, voire pratiquer une linguistique des plantes et une linguistique des cailloux à Paris 13, voilà, et qui pose même la question, si vous voulez, d'une analyse du discours intersectionnel, je vais terminer là-dessus, hein, où on voit par exemple poser cette question dans des masters enseignés à nos étudiants en M2, posant l'idée que, puisqu'il existe une écriture qui se pose la question du genre, conçu comme le genre, d'une biologie mentale, enfin je ne peux pas reprendre tout le discours, il existe donc une analyse du discours intersectionnel qui adopte des perspectives issues des études de genre, des critical race studies et des études décoloniales, et qu'un séminaire a pour objectif de mettre concrètement l'intersectionnalité au travail d'analyse du discours sur les plans épistémologiques, théoriques, méthodologiques, et que l'intersectionnalité est en effet une notion actuellement dans la recherche en SEHS très en mode, un slogan, mais que les réflexions sur la manière dont elle peut véritablement être intégrée aux méthodes et résultats de recherche en analyse du discours sont actuellement inexistantes. Il faut donc y remédier et pratiquer une linguistique qui soit intersectionnelle. Cette linguistique intersectionnelle se heurte à des obstacles. Ces obstacles sont ceux qu'on vient de décrire. Il existe ces deux pulsions, d'un côté la pulsion archéologique, de l'autre cette pulsion étymologique, mais qui dénie en fait à la langue sa propre réalité, qui sont les règles du jeu de sa propre évolution. À partir du moment où la répartition entre animé et inanimé est un impensé de la langue, à partir du moment où la question de l'adverbe morphologiquement formé sur le féminin en français, n'est pas posé. À partir du moment où on joue sur une surcaractérisation du graphème féminin, qui ignore les apports de la linguistique depuis Meillet et Martinet, qui avaient montré que la thématisation linguistique depuis l'indo-européen n'est pas un phénomène probant pour caractériser la répartition entre le genre, eh bien, on assiste à un effondrement des théories qui veulent réintroduire le genre, qu'il soit mental ou biologique, dans l'orthographe. La segmentation incise fait évidemment obstacle. Comment gère-t-on aujourd'hui la question de l'accent, si l'on veut absolument faire de l'accent, morpheme diacritique, un enjeu d'écriture? Et évidemment, en dernier lieu, se pose la question de la sémantique, qui, qu'on le veuille ou non, n'obéit pas à une perspective méthodologique, ça n'est pas une grille de lecture qu'on peut surimposer sur l'orthographe, parce que les courants profonds qui traversent l'évolution de la langue en fonction des règles internes de la structure linguistique se heurteront toujours à des descriptions structurelles qui font fi de sa réalité.